au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.
Bonsoir, bienvenue à l'émission Livre au Café des Psaumes, ici Yankel Fijalkov. Nous rencontrons ce soir Daniel Lofer pour son ouvrage « Venir après, nos parents ont été déportés » aux éditions du Faubourg. Daniel Lofer est journaliste, elle a beaucoup écrit pour la jeunesse et plus particulièrement sur les différents âges de la vie. Elle est née en 1951 à Casablanca, mais son itinéraire bien particulier l'a conduit vers une enquête singulière auprès d'une vingtaine de personnes dont les parents ont été déportés et qui ont survécu au camp d'extermination. Daniel Lofer, bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire ce livre ?
Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, j'avais écrit un livre avec ma mère, il y a 20 ans, qui est tombé un peu dans l'oubli. Je pense que je fais partie de ces gens qui ont été fracassés par la déportation de leurs parents. Ma mère ne m'en avait pas beaucoup parlé, mais quand j'étais enfant, j'étais une enfant assez maladive, j'avais de l'asthme. Après, j'étais une femme très, très angoissée, j'avais des fantômes, j'étais traversée par des choses que je ne comprenais pas, que j'ai comprises finalement en 1984, quand je suis allée en Israël pour la première fois. J'ai compris en fait que j'étais victime d'un trauma collectif qui était celui des enfants de survivants. Bon, je ne peux pas dire que ça m'est arrangé. Je ne suis pas devenue la personne la moins névrosée du monde. Mais en tout cas, j'ai compris quelque chose. Et ce que j'ai compris, je n'ai pas pu le partager avec les gens qui n'avaient pas vécu la même chose que moi. Et en fait, à part ma sœur, je ne connaissais personne qui avait vécu la même chose que moi. Je ne vis pas dans un milieu particulièrement juif. J'ai des amis juifs, bien sûr, mais j'arrivais pas à en parler. Les gens n'avaient pas envie d'écouter quand je disais « mais ma mère a été déportée », comme si... Je voulais raconter quelque chose, les gens disaient « Oh, ben ça va ». Ils n'avaient pas envie d'entendre. Donc, je me suis tue. Je me suis tue pendant des années. Et puis ça ne m'a pas rattrapée. En fait, ça ne m'a jamais quittée. Mais là, maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que les survivants de la Shoah sont en train de disparaître. Moi, je ne veux pas que cette mémoire disparaisse. Je ne veux pas qu'on oublie... Et je pense qu'on est là, nous, les enfants de survivants, on est là pour... on a un travail de mémoire à faire, on doit raconter, on doit témoigner. Alors, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que j'ai rencontré des gens pour en parler, parce que je pense que c'est une histoire collective. Et je me suis aperçue qu'en fait, on partage les mêmes angoisses, les mêmes fantômes, on est tous traversés par cette histoire... qu'on nous les racontait ou pas, qu'on n'a pas les mêmes trajectoires, on ne vit pas dans les mêmes milieux, mais ça fait partie de nous. Alors, moi j'ai écrit, ça nous a à la fois détruit et construit. Et ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de témoigner de ce qui nous a détruit et construit, parce qu'on est quand même là aujourd'hui, que... Hitler ne gagnera pas, il ne va pas faire taire cette histoire, je ne veux pas qu'on oublie.
Oui, alors Daniel Lofer, pour être plus précis, votre livre recueille des témoignages et finalement vous avez cherché à la fois à partager votre vie et à voir qu'est-ce que vous pouviez partager avec d'autres personnes qui ont vécu et ont eu aussi des parents déportés, comme le dit le titre de votre ouvrage. Et finalement, comment vous avez rencontré tous ces gens-là ? Comment vous les avez...
Écoutez, comme je ne voulais pas écrire à la première personne, voilà. Parce que c'est quand même un livre à la première personne... Que je voulais faire quelque chose d'assez littéraire en même temps. Je me suis dit qu'il fallait qu'on soit nombreux, que ça soit un récit polyphonique à plusieurs voix. Donc évidemment, j'ai interviewé ma sœur et puis j'ai cherché et je me suis aperçue que parmi les gens que je connaissais, il y en avait qui, dont les parents avaient été déportés, on n'en avait jamais parlé. Et puis j'ai cherché sur le site Yiddish pour tous de Facebook. Et puis j'ai demandé à des amis et les gens sont arrivés comme ça, en fait, avec ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, un vrai désir de parler, de témoigner. J'ai trouvé ça émouvant parce que pour la première fois, on avait l'impression qu'il y avait une intimité qui se créait immédiatement, une parole qui se libérait, mais qui n'était pas dans la plainte, qui était juste dans... C'est des récits de vie, quoi. C'est des histoires, c'est l'histoire de juifs, quoi. Mais en même temps, avec leurs empêchements, leurs fantômes, et puis aussi on a tous fait nos vies, quoi. On est fracassés, mais on est là, quoi.
Oui, alors justement, en fait, d'empêchement, vous parlez à un moment donné d'une mémoire empêchée.
Oui, alors
une mémoire familiale empêchée.
Moi. Par exemple, j'ai écrit un livre avec ma mère. J'ai voulu interviewer ma mère. J'ai fait un livre avec elle qui s'appelait « La vie empêchée ». J'ai essayé de la faire parler et en fait, elle tournait en rond, elle tournait en boucle. Donc, j'ai fini par lui demander d'écrire. Elle a écrit. Et j'ai fait, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, un livre à deux voix, un récit à deux voix. Mais ce qu'elle n'a pas pu me dire, ce qu'elle a écrit, je ne m'en souviens pas. Pourtant, j'ai fait des années d'analyse, mais voilà, c'est comme ça, je ne m'en souviens pas, ça n'a pas été dit. Donc, chaque fois qu'on me demande « Mais ta mère, elle a été déportée quand et de quand à quand ?» Je suis obligée de reprendre mon livre, de chercher, et je suis presque... J'ai presque un peu honte de ça, mais voilà, ça n'a pas été dit, donc je voilà.
Oui, mais alors, vous ressentiez quand même un empêchement, un sentiment, un bâillon, un tabou autour de cette mémoire historique.
Vous savez, il y a l'histoire, la grande histoire qu'on connaît, et puis il y a l'histoire de nos familles, il y a ce qu'on sent chez des parents, on sent des souffrances, des non-dits, des choses bizarres. Par exemple, moi, ma mère, elle parlait toute seule, il y avait des moments, elle était assise sur son canapé, tout d'un coup, vroup, on sentait qu'elle était partie, on ne savait pas trop où, avec ma sœur, on la regardait, elle nous faisait un peu peur... Donc tout ça, forcément, ça crée une espèce d'ambiance un peu particulière. Alors oui, on peut parler de tabou, puisque quand les choses ne sont pas dites, quand elles ne sont pas transmises directement, c'est un peu ça le tabou, quoi. C'est un sujet, il n'y a pas de mots, il y a ces ombres, il y a ces... Et puis, il y a ce... moi, je parle d'amour empêché parce que je pense que la rencontre... Ma mère n'a pas pu m'aimer. Je pense qu'elle fait partie de ces gens qui, pour survivre dans les camps, ont été obligés de tenir leurs émotions à distance et donc ne les ont plus jamais ressenties. Ce qui fait que je pense qu'elle ne savait pas m'aimer. Et moi, j'étais une petite fille écorchée qui avait juste besoin qu'on m'aime. Et donc, voilà, ça a été empêché, quoi. Mais tout ce que je fais, ce livre, c'est pour essayer de renouer un lien qui ne peut pas se renouer, puisque ma mère est morte il y a des années. Mais bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas que nos histoires de famille soient empêchées. Et donc, il y a des générations derrière nous, il y a nos enfants, il va y avoir nos petits-enfants. Il ne faut pas qu'il y ait ce tabou. Il ne faut pas qu'il y ait ce tabou. Après, la difficulté, c'est comment on fait pour que cette mémoire subsiste, pour que cet amour passe, sans faire souffrir. Parce que, franchement, on a morflé, nous, la génération des enfants déportés. Sans doute moins que nos parents, bien sûr. C'est eux qui ont été déportés. Mais nous, on vit toujours avec ces barbelés, ces fantômes, ces...
Et le passé est parfois résurgent. Alors, vous racontez une histoire assez symptomatique que vous intitulez, si je me souviens bien, « Lorsque le grand-père est arrivé par la poste ». Racontez-nous.
Comment mon grand-père est arrivé par la poste ? Ouais, c'est une histoire. Alors, ma mère était d'origine allemande. Son père était metteur en scène de théâtre et d'opéra. Sa famille a réussi à partir d'abord en Suisse, puis aux États-Unis. Elle est partie en Hollande, d'où elle a été déportée. Et elle n'a jamais revu son père, qui, lorsqu'il a émigré aux États-Unis, a tourné dans un film dont on avait entendu parler, puisque la légende familiale en parlait beaucoup. Ce film s'appelait « The Immigrant ». Ma grand-mère a cherché, longtemps après sa mort, mon grand-père est mort en... 46, je crois, ou 44, je ne sais plus, j'ai un problème avec les dates. Ma grand-mère a cherché à retrouver ce film et elle n'a jamais retrouvé ce film. Des années après, la sœur cadette, une des sœurs cadettes de ma mère, Evie, qui avait 90 ans, qui était une vieille dame libidineuse, enfin, qui aimait les hommes, qui était très séductrice, était toute seule chez elle. Elle regarde la télé un soir et elle regarde Sex and the City. Bon, c'est pas
le
genre...
Tous les goûts sont dans la nature.
Tous les goûts sont dans la nature. Et tout d'un coup, elle voit l'héroïne de Sex and the City regarde la télé. Et dans la télé, elle voit passer une silhouette de dos et elle dit « c'est mon père ». Alors évidemment, tout le monde la prend pour une folle. Elle appelle son fils, ses enfants, et elle dit « j'ai vu mon père ». Ma cousine, qui la prend quand même un peu au sérieux, décide d'essayer de voir du côté de la production, appelle la production, et il se trouve qu'effectivement, le film qui était projeté dans la télévision, que regardait l'héroïne de Sex and the City, c'était le film dans lequel mon grand-père avait joué. Donc, on a retrouvé ce film, et moi, j'ai vu arriver un DVD par la poste un jour, et j'ai mis ça dans mon ordinateur, et j'ai vu cette silhouette, ce visage que je connaissais parce que j'ai une photo de lui dans ma chambre. Et c'était hallucinant, j'ai fait la connaissance de mon grand-père comme ça. Mais déjà ça c'est étonnant.
Oui, mais il y a mieux.
Mais il y a mieux, c'est que lorsque j'ai écrit avec ma mère un livre que j'ai appelé « La vie empêchée », qui était un livre de mémoire à deux voix, l'héroïne du livre, je les ai appelées Hilda et Mathilde Lang. Je ne voulais pas les appeler Lofer. Et j'ai découvert, en regardant le film dans lequel jouait mon grand-père, qu'en fait, le nom qu'il portait dans ce film, c'était Lang.
Quel passé résurgent.
C'est incroyable quand même. Franchement, c'est incroyable. Oui, je veux dire, on a l'impression que... Et personne ne le savait, personne n'a pu me le dire. Comment ça passe comme ça dans la mémoire? Enfin, je veux dire, c'est ça que je trouve fou.
Alors, est-ce que vous avez rencontré des phénomènes semblables chez vos témoins, des histoires de ce type-là?
C'est pas ce qu'ils m'ont raconté, mais je les ai sentis extrêmement habités par ces gens. Il y a quand même le frère de Malka Brown que j'ai interviewé qui, lui... dit quelque chose que je trouve extrêmement fort. D'ailleurs, il y a eu un film sur Sam Brown, qui était son père, que vous connaissez, qui a beaucoup témoigné. Quand il a vu ses parents sur le quai d'Auschwitz et il a dit « Notre famille commence à Auschwitz ». C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aussi qui ne savent pas d'où ils viennent, qui était leur famille, qui étaient leurs grands-parents, comment ils sont morts, comment ils ont vécu, quel était leur nom. Il y a Sarah Peraya a dû faire des recherches pour savoir comment s'appelaient ses grands-parents. Donc peut-être qu'un jour, les enfants auront comme ça des fantômes qui reviendront et qui les raccrocheront à leur histoire. Enfin, c'est comme le livre de Daniel Mendelsohn, qui est quand même extraordinaire, qui est le bouquin le plus extraordinaire que j'ai lu. Les disparus, voilà, il y a des fils comme ça et bon, faut pas les perdre.
Alors, est-ce que vous considérez finalement que c'est la recherche de racines qui ferait l'unité de ce groupe de témoins que vous avez rencontrés, qui tous recherchent finalement à s'ancrer dans une identité.
Je ne crois pas que ça soit ça, non. Je pense qu'on est tous très conscients qu'on n'est que de passage, qu'on est là, on est français, bien sûr, avant tout, mais nos ancêtres étaient ailleurs. Peut-être qu'un jour nos enfants seront ailleurs. Je sais pas. Moi, j'ai planté des racines un peu partout, comme j'en avais pas. Je me suis acheté une maison de campagne, et puis je me suis rendu compte que j'y suis restée. Je l'ai gardée 14 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas trop mon truc, quoi. Je me suis fait des familles d'adoption, de substitution. Je ne peux pas vraiment parler pour les autres, mais je pense qu'on a cette espèce de sentiment d'être là, d'être de passage, quoi, en fait, ce qui est quand
de
même...
De passage dans ce pays, c'est ça ?
Dans ce monde, dans ce pays. Ouais. Mais peut-être aussi dans ce pays, je ne sais pas. Vous savez, moi, ma mère était née en Allemagne, je suis née au Maroc, mes grands-parents étaient nés en Russie, ma fille est née à Paris. Bon, voilà, c'est une histoire, quoi. Je suis là, je suis née française, j'aurais pu naître, je ne sais pas, moi, marocaine, par exemple.
Oui, mais c'est ce que cette tentative de constituer des racines, d'avoir cette la maison de campagne, la grande famille.
Ouais, bah c'était, j'ai
est-ce
pas
que
réussi.
Vous avez rencontré ça ? Oui, bien sûr, mais est-ce j'ai que vous avez réussi. Rencontré ça chez d'autres de vos témoins ?
Je réfléchis, je sais pas. Je sais pas si c'est. J'ai senti une quête d'histoire familiale, une quête d'histoire familiale, mais je ne sais pas.
Parce que, est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous reprenez à partir du concentration camp syndrome qui a été repéré par l'association américaine de psychiatrie, avec toute une série de symptômes,
ah bah alors
de traits
là,
de personnalité.
Sentiment intense de peur, de terreur et d'abandon, des reviviscences de l'événement traumatique, l'émoussement de la réactivité générale, une hyperactivité neurovégétative, des rêves traumatiques, des souvenirs récurrents, des périodes sensibles au moment des anniversaires... des états dissociatifs, une perte de la capacité de concentration. C'est un tableau clinique qui est très violent. Mais,
voilà.
mais bon...
mais c'est chez les survivants, ça. Chez
oui,
les enfants.
Mais les enfants... vous savez, il y a ce truc, effectivement, quand on ne vous a rien dit, il y a ce qu'on appelle un peu la concrétisation. Il y a une psychanalyste qui parle de concrétisation, c'est-à-dire qu'enfants... Pour se rapprocher de leurs parents, certains ont été malades. Par exemple, moi, j'ai été anorexique. Nelly Grimbert, qui est dans le livre, a été anorexique aussi. Qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi on a été des enfants anorexiques ? Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas une manière de faire corps avec ce que nos parents ont vécu et n'ont pas pu nous dire ? Il y a aussi ces sentiments d'abandon, quand même, ce sentiment de cette peur. Moi, je suis un peu abandonnique, hein, je ne devrais pas le dire, mais je lutte contre. Mais voilà, j'hésite toujours, j'ai toujours peur qu'on me rejette dans les groupes, j'ai toujours un peu du mal. Je pense que je suis claustrophobe. Je raconte dans le livre que la première fois que je suis allée dans un hammam, je suis partie, mais dans un état d'angoisse pas possible. Et j'ai compris après que me retrouver dans une pièce fermée où il y avait de la vapeur, où les gens étaient nus, et ben pour moi, c'était les chambres à gaz. Voilà, pourtant, ma mère n'y est pas allée dans les chambres à gaz. Mais voilà, moi, c'est quand même un imaginaire qui est lourd, lourd, lourd quand même. Et en fait, qu'on voudrait oublier, on ne pourrait pas l'oublier. Et en fait, je pense qu'on n'a pas le droit de l'oublier non plus. Quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faut vivre avec, faire sa vie, être heureux, faire des enfants. Et bon, moi, franchement, je ne pense pas avoir raté ma vie parce que je suis une fille de rescapée. J'aime beaucoup rire. J'ai écrit des bouquins. J'ai fait quand même des choses dans ma vie dont je suis assez contente. Quoi. J'ai des amis, etc. Mais il y a toujours ce truc-là qui est... dans ma tête, et que j'ai pas envie d'oublier, que j'essaye encore toujours de temps en temps de dire aux gens. Et bon, là, je l'ai écrit, et avec des tas d'autres gens qui, eux aussi, ont envie de le dire, parce que ça fait partie de nous, et que c'est important, et que c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire, quoi. Et c'est des vies quand même un peu... On n'est pas les seuls à avoir été traumatisés. Hein. Il y a les Khmers rouges, il y a les Rwandais, il y a les Palestiniens. On a tous... Mais bon, ce n'est pas une raison.
Bien sûr. Alors, mais si j'en reviens sur le groupe de témoins que vous avez, on a un peu l'impression... Allez, je vais vous taquiner un petit peu.
Je sais ce que vous allez me dire.
Voilà, que c'est une génération qui finalement s'en sort pas si mal. On connaît d'autres fratries où, ça se finit beaucoup plus mal avec des suicides, etc., etc. Là, on a quand même affaire à des gens qui ont plutôt réussi, mais peut-être un milieu un petit peu parisien, plutôt... Allez, je continue mes taquineries.
Allez-y.
Plutôt de gauche.
Je pense
qui cherchent un petit peu un judaïsme qui n'est pas toujours religieux.
Oui, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous de gauche. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire aujourd'hui être de gauche, en fait. C'est vrai que j'ai donné la parole aux gens que j'ai trouvés. On n'est pas du tout, je pense, emblématique de toute cette génération. Mais en même temps...
Peut-être d'un certain judaïsme parisien, quand même. Peut-être Daniel Dauphin.
Mais ils ne sont pas tous parisiens, je vous signale d'abord. Peut-être... Mais si c'était suicidé, j'aurais pas pu les faire parler, pardon. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent effectivement, qui ont eu un trauma beaucoup plus grave. Et puis je pense que même s'ils sont tous relativement à l'aise, je pense qu'ils n'ont pas non plus raconté la profondeur des abîmes qu'ils ont pu frôler parfois. Enfin, certains l'ont raconté. Daniel, par exemple, qui a raconté que pendant des années, il avait peur de dire qu'il était juif parce qu'il pensait qu'il allait mourir s'il disait qu'il était juif.
C'est d'ailleurs par ça que commence votre ouvrage, pratiquement.
Et lui, c'est quelqu'un que je connais, pour le coup, dont j'ai connu la mère qui était rescapée d'Auschwitz. Et c'est un garçon d'une sensibilité extraordinaire, moi d'une fragilité, je pense, extraordinaire aussi. Je ne sais pas si lui s'en est sorti si bien que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir bien ? Oui, on a bossé, on a eu la chance d'être aussi à une époque, parce qu'il n'y a pas les années 70 quand même, il n'y avait pas le chômage, il y a des gens qui ont... créer des boutiques, des boîtes. Il y a des gens qui sont devenus journalistes, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des gens qui sont devenus économistes, psy. Bah oui, il y en a beaucoup qui sont devenus psy aussi.
Oui, beaucoup dans votre...
Ouais. Oui, c'est vrai.
Dans votre groupe de témoins.
Ouais.
Oui, alors bon... Et dans ce milieu-là, on se confronte aussi à l'antisémitisme, mais peut-être pas de la même manière que dans d'autres milieux. L'antisémitisme, vous le côtoyez de temps en temps.
Moi, je l'entends. Moi, je suis très... je l'entends, je supporte pas, je l'entends. Mais c'est vrai que j'en suis pas une victime physique. Je n'ai jamais été agressée physiquement parce que je suis juive. En revanche, j'entends des choses que j'ai beaucoup de mal à supporter. Je supporte pas d'entendre mort aux juifs dans les manifs, par exemple. Je supporte pas les petites pointes que j'entends quand même tous les jours de cet amalgame permanent entre la politique d'Israël, Israël et le fait d'être juif, comme si on était forcément des salopards. Je trouve ça insupportable, quoi, insupportable. Ma sœur, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai de différent des autres ? Quand elle se regarde dans la glace, elle dit, mais pourquoi on me reproche d'être juive ? Et c'est ça le truc. Alors évidemment, on n'est pas maltraité, on a la chance de ne pas être mort aujourd'hui.
C'est-à-dire, oui, ou peut-être les juifs moins visibles.
Les juifs moins visibles, bien sûr.
Puisque,
bien sûr,
puisque
évidemment.
Vous faites, ce groupe-là est quand
mais
même
bien,
le
bien
groupe
sûr.
Des juifs moins visibles,
bien
qui
ne
portent pas de kippa, qui
mais bien
bon,
sûr. Mais évidemment,
pas un
non,
nom
non.
Oui. Qui consonne.
Mais c'est vrai. Oui, vous avez raison. Et ben justement, raison de plus pour porter cette parole pour tous ceux qui, eux, font les frais de cet antisémitisme abominable, incompréhensible et monstrueux. Moi, je suis toujours... Je suis toujours solidaire. Je ne comprends pas comment, après avoir exterminé 6 millions de juifs, on peut encore dire sale juif ou mort aux juifs. C'est intolérable.
Oui, mais ça, c'est ce que vous entendez dans la rue. Après, c'est les petites remarques dans votre cercle professionnel ou amical qui vous fait...
Qui vous font mal,
qui vous font réagir.
Ouais.
Et est-ce que tous vos témoins réagissent de la même façon ?
Ah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui laissent passer. Ouais, mais il y en a qui sont plus gonflés que d'autres. Moi, j'ai pas toujours été très gonflée. Moi, je me suis souvent levée, je suis partie. Il y en a qui hurlent. Mais c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais
alors, finalement, c'est un livre pour partager ces impressions aussi que vous avez écrit.
C'est un livre pour dire que ce qui s'est passé n'est pas terminé, que c'est pas parce que y a eu la libération des camps que la Shoah est terminée, pour dire qu'il faut pas oublier et que c'est peut-être la Shoah a peut-être rendu juif des gens qui l'auraient peut-être pas été à un moment donné, quoi. Et donc ça, je pense que ça mérite en tout cas réflexion.
Et c'est un message aussi pour les enfants.
Ah oui, c'est pour les enfants. Moi, je voudrais que les enfants auxquels on n'a pas parlé ou qui sentent des choses puissent... Moi, j'écris ce livre pour eux. Hein. Je l'ai dédié à ma fille, à mes neveux. Je ne sais pas s'ils pourront le lire tout de suite parce que c'est lourd quand même. Mais en tout cas, ils l'auront.
Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Daniel Lofer, pour cet ouvrage profond. Je rappelle le titre. « Venir après, nos parents ont été déportés » aux éditions du Faubourg. Merci Daniel.
Merci beaucoup à vous.
Livre au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Yankel Fijalkov.